Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Électron Libre. Nous sommes le 26 septembre 2025, il est exactement 19h, et c'est l'heure d'une émission spéciale des Échos Libres du Jura. Eh oui, une émission spéciale d'une heure dédiée aux enjeux qui nous concernent tous, hein. L'avenir du canton du Jura, la fiscalité qui pèse et les idées pour un Jura plus libre et prospère. Aujourd'hui, nous recevons en solo Pascal Prince, candidat du gouvernement Helvetica pour un siège au gouvernement jurassien. Pascal, bienvenue. Vous qui avez déjà challengé le système en 2020 et en 2024 avec un score pas mal de 11,5% des voix en partiel. Un score qui fait du reste trembler les partis installés. Prêt à nous parler de du vrai rôle de l'État et de ce, entre guillemets, vol invisible qu'il pratique dans nos poches.
Oui, alors merci pour l'invitation. Effectivement, je suis toujours très enthousiaste pour essayer de faire découvrir aux gens les possibilités de changer la situation, parce qu'effectivement, on se fait avoir, on se fait plumer très régulièrement par les politiques et le gouvernement qui est l'émanation des politiques.
Alors Pascal, pour ceux qui vous découvrent, hein, habitants de Courandelin, militants jurassiens engagés via le groupe Bélier à l'époque déjà, depuis des années, et fondateur en compagnie d'Helvetica, d'une alternative anti-étatisme. Pascal, c'est un monsieur qui n'a pas de casserole dans son parcours, juste une passion pour un canton sauvé, par des mesures pour un canton à sauver par des mesures choc. Votre programme, baisse drastique des impôts, Komatsu ou Auschwitz, pour attirer les entreprises et stopper l'exode. Et ce fil rouge d'aujourd'hui, le rôle de l'État, idéalement, que devrait-il être?
Alors, dans ma vision de l'État, c'est celui qui accompagne la société, celui qui met le cadre dans lequel, ou bien, si on veut bien, l'aquarium où les poissons pourront nager et puis se développer, parce que moins, il faut vraiment qu'il soit très large, mais qu'il en fasse le moins possible. Donc, il donne un maximum de liberté et puis qu'il donne un maximum de possibilités aux citoyens et aux entreprises de développer leurs rêves, de développer leurs projets. Puis pour cela, j'aimerais que l'État soit au niveau au strict minimum de ce qu'il doit faire, que le régalien, ça soit vraiment l'école, les infrastructures de santé, les infrastructures de transport, et puis c'est à peu près tout. À organiser peut-être la vie politique dans le sens d'organiser les élections, de mettre les instruments à disposition des citoyens pour vivre cette politique et puis vivre leur société, faire évoluer leur société.
Alors si tu le veux bien Pascal, plongeons dans notre fil rouge. Pascal, l'État jurassien, c'est actuellement deux socialistes, deux centristes, un PLR au gouvernement. Un équilibre fragile, mais vous dénoncez une même soupe. Quel rôle devrait jouer l'État dans l'économie locale? Par exemple, face à l'exode des jeunes vers Bâle ou Neuchâtel?
Alors, juste un petit détail, c'est qu'il y a un PC qui n'est plus un PLR. Alors, c'est vrai que moi, il me semble quand même qu'on a toujours la même recette depuis la création du canton du Jura, quelques exceptions près, les mêmes partis dirigent le canton. Et puis, on a les résultats qui montrent que c'est mauvais, que ça ne fonctionne pas, sans vouloir prendre des références un peu critiquable, c'est-à-dire UBS par exemple, ils disent quand même que c'est le canton le moins attractif. Donc il faut quand même reconnaître qu'il y a un sérieux problème, on n'a pas besoin de faire un audit pour savoir qu'on a des difficultés à se développer. Et quand je regarde les différents cantons en Suisse, je remarque quand même que ceux qui ont une politique fiscale très très réduite attirent les gens, attirent les jeunes, ont envie de revenir parce qu'ils auront un avenir ici, ils auront des impôts bas, ils auront de l'argent pour leurs projets, ils auront peut-être une qualité de vie qu'on ne trouve d'ailleurs plus vraiment dans les grandes villes, ils pourront acheter une maison, ils pourront acheter du terrain, ils pourront faire évoluer leurs projets, mais pour cela il faut vraiment une politique fiscale vraiment très très basse, ce qui n'est pas le cas actuellement au Jura. Donc J'ai regardé encore récemment, là, entre 2008 et 2023, par exemple, le Tessin est passé de 80% de potentiel de recettes fiscales à 100. Donc, il prend toujours plus et on s'appauvrit. Tandis que en 2008, pardon, il n'y avait que deux cantons qui avaient des politiques fiscales très, très basses, comme Zoug et Schwyz. Et maintenant, ils sont six. Et les six, dès qu'ils ont commencé, la mode ou le mouvement est resté le même, ils sont restés très bas et ils ont tous progressé et prospéré. Donc j'aimerais que le Jura devienne le septième canton à changer d'optique et de redonner la liberté d'entreprise, la liberté de choisir, de choix des citoyens face à un État qui s'est occupé de beaucoup trop de choses, que la société civile peut très bien s'en occuper.
Ouais. Et c'est vrai qu'on le constate du reste, notamment avec l'exemple des augmentations des coûts pour l'assurance maladie, qui augmente dans tous les cantons, mais qui diminue à Tsoug. Ça, c'est fou.
Tout à fait. Et puis, alors, je veux bien que Zoug n'a pas d'hôpital universitaire et puis qu'il profite de la proximité de Zurich, etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Quand on regarde avec l'augmentation des primes, on est passé à 47% de la population jurassienne qui touchait des subsides. Normalement, d'après les calculs que j'ai vus, on devrait arriver à 60%. Donc, c'est complètement absurde. L'État va prendre de l'argent dans les poches pour les redonner après à d'autres. Donc, c'est un intermédiaire de plus. Donc, il y a une évaporation, ce vol invisible comme on en entend déjà beaucoup parler. Il y a une évaporation de l'argent qui part dans l'État dont on n'a aucun contrôle. Tandis que le citoyen, plus il a de l'argent dans son porte-monnaie, plus il peut gérer cet argent, mieux il sait où ça va et à quoi ça sert. Il peut payer des assurances maladie plus chères, mais ne pas toucher de subsides, mais avoir des impôts qui lui permettent de payer ces impôts plus chers. Ces
primes assurances,
maladie plus
chères. Ouais.
S'il a plus d'argent à la fin du mois, une augmentation de la prime, ça ne lui fera pas peur. Par contre, si non seulement on lui fait payer des primes plus chères, mais en plus, on lui prend plus d'argent, parce qu'il faut, il y a des subsides pour survivre, il est perdant deux fois.
Ouais. C'est assez fou de constater ça. Hein. Alors il y a un truc que tu évoques souvent sur X, le réseau social, c'est la courbe de l'affaire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette courbe? Et puis concrètement, hein, pour le Jura agricole, donc c'est la fierté souvent des habitants du canton. Hein, comment l'État aide sans étouffer?
Alors, cette courbe de l'affaire, c'est un économiste américain qui l'a proposé, et puis qui est bien sûr soumise à toute discussion, hein, dans toute science, y compris les sciences économiques. Le doute est le moteur des recherches, mais on le constate quand même assez facilement. Je donne toujours l'exemple du croissant. Si on compte le nombre de taxes qu'il y a dans un croissant, ça peut partir du registre foncier qui encaisse pour le terrain agricole, la TVA sur le tracteur, le salaire du paysan ou celui de l'ouvrier, l'essence qu'utilisera le tracteur, il y a la TVA, etc. Ensuite, il y a le transporteur pour la farine, ensuite la petite boulangerie avec le boulanger qui prépare le croissant et le serveur, etc. Donc, au final, avec le croissant qu'on paye 2 francs, il y a 3 francs de taxes. Alors, pour que ces 3 francs de taxes puissent entrer, il faut que le Jurassien ait ses 2 francs. S'il n'a plus les 2 francs pour se payer un croissant, il n'ira plus acheter de croissant et il y aura plus, toute la filière va tomber. Et c'est exactement ce qui se passe. Plus l'État prend de l'argent, moins on a de l'argent à mettre dans la filière, moins on alimente l'économie et l'énergie pour. Moi, je dis toujours que c'est l'oxygène, l'argent est l'oxygène de l'économie. Mmh. Et plus on enlève l'oxygène, plus on étouffe, comme vous l'avez dit, on étouffe l'économie et donc on étouffe la population. Pour ce qui est de l'agriculture, l'État étouffe avec des normes complètement absurdes. On en arrive à un point où c'est complètement démentiel tout ce qui est demandé et exigé.
Est-ce que...
On demande du bio, alors que la population n'achète même pas la totalité du bio au Jura parce que ça ne les intéresse pas.
Est-ce que tu as des exemples concrets de cette absurdité je ne sais pas, dans tes proches, tes amis, à Courandelin ou ailleurs. Est-ce que tu as des exemples concrets de cette absurdité?
Alors, j'ai souvenir justement d'une ferme entre Delémont et Courandelin où j'avais discuté à l'époque avec une personne les experts de la Confédération étaient venus et ils avaient mesuré la hauteur du couloir pour l'étable, pour les vaches. Et puis malheureusement, il manquait 2 cm par rapport aux nouvelles normes. Donc ils allaient perdre, allons-y, 5 000 ou 6 000 francs de subvention. Par contre, il n'y avait pas de fenêtre à une chambre d'un des enfants, ça ne leur posait pas de problème. Donc on en arrive vraiment à avoir des attitudes. Puis bon, là, ben, on a typiquement le cas du Mercosur, où on va mettre en concurrence nos agriculteurs avec des petites exploitations, certes très rentables, j'imagine quand même, mais avec des immenses exploitations. Là, l'Argentine, c'est juste 50 fois la grandeur de la Suisse, quoi. Alors je veux bien qu'ils ont aussi des sommets à 6 000 mètres où il n'y a certainement pas de vaches qui pèsent là-haut, mais franchement, on est en train de tuer notre agriculture, on est en train de tuer notre production ici, locale, alors qu'on dit exactement le contraire. Toute la politique veut promouvoir les circuits circulaires, la production et la consommation locale, mais on a le gouvernement, le Conseil fédéral, qui fait exactement le contraire, avec des accords de libre-échange qui profitent assurément à quelques lobbies, à quelques gros groupes, et puis qui ont notre société.
Ouais, moi je j'entends bien ce que tu dis et puis j'ai l'impression qu'on devrait, alors c'est personnel comme réflexion, mais j'ai l'impression qu'on devrait d'abord, on va dire, vendre aux Suisses, aux habitants de la Suisse, ce qui est produit en Suisse, et puis vraiment quand il y a plus tel ou tel type de marchandise, à ce moment-là, en importer. Aujourd'hui, on en importe, et puis après, les paysans suisses, eux, se retrouvent dans l'impossibilité de vendre leurs produits parce que, plus cher que ce qu'on importe, quoi.
Tout à fait. Et puis, moi, j'avais été en tant que député pour représenter le Parlement jurassien à une assemblée de la francophonie au Cameroun juste après les émeutes du poulet, où vous aviez les Chinois qui avaient envahi le marché de poulet, très bon marché. Pendant 2 ans, ils étaient au tiers de prix, même au quart de prix du poulet local. Et après 3 ans, il n'y a plus personne qui produisait du poulet. Et les Chinois avaient augmenté, multiplié par 10 le prix du poulet. Et plus personne n'en produisait. Et c'était juste une catastrophe. Il y avait eu des émeutes, il y avait eu des morts. Hein. Ouais. Et donc nous, on est en train de faire la même chose chez nous. On va prendre des produits du bœuf et des moutons d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, etc. Et puis chez nous, alors qu'on peut très bien mettre des moutons juste en face de chez moi, j'ai des moutons d'ailleurs, chez mon père il y a un champ avec des moutons, et très sincèrement, il coûte plus cher à l'achat que le mouton de Nouvelle-Zélande, alors qu'il a traversé, soit par les airs, j'imagine par les airs parce que ça prendrait trop de temps en bateau, mais toute la planète, quoi.
Il voyage par bateau, Pascal, j'ai vu des vidéos, c'est assez atroce comme transport, mais il voyage par bateau. Il y a des chevaux qui font la même chose. C'est assez atroce. Hein, les gens se rendent pas compte quand ils achètent de la viande d'Argentine ou de Nouvelle-Zélande, etc. Ils se rendent pas compte de ce que subissent en plus derrière les animaux. Et puis ça, comme par hasard, nos amis de la protection des animaux se taisent. Alors de temps en temps, hein, on entend un petit truc, mais globalement, ils se taisent là-dessus, alors que c'est des centaines, des dizaines de millions de têtes de bétail qui sont transportés chaque année de cette manière-là à travers toute la planète, sur tout le globe. C'est complètement fou.
Oui. Et là, j'en reviens de nouveau à cette problématique de la fiscalité. Moi, je n'ai malheureusement pas forcément le choix. Quand j'arrive au magasin, je ne peux pas me permettre de payer un steak 25 francs la tranche. Et puis, s'il y en a un à 8 francs à côté, ben, je prendrai celui à 8 francs. Je n'ai pas vraiment le choix. Par contre, si la fiscalité du canton nous laisse l'argent, là, je pourrais faire des choix conscients et dire oui, je veux soutenir l'industrie locale. Je sais que c'est du paysan du village d'à côté, et je serais très fier et je pourrais me permettre de le soutenir et de lui acheter lui acheter cette viande. Par contre, actuellement, avec la pression fiscale, on n'a pas le choix, en fait. On nous vole notre possibilité de choisir.
C'est dingue, complètement dingue, et ça rejoint ce vol invisible dont on parle là depuis quelque temps, notamment sur la radio avec Pascal Borel. On a fait toute une série d'émissions. On va continuer, Pascal, avec une question que j'ai reçue par mail. Bon, c'est un peu c'est un peu bizarre. Il y a des gens qui, je leur dis de venir sur le groupe Telegram, mais ils m'envoient par mail avec l'adresse email de la radio des questions. Alors, Pascal, en 2020, vous critiquiez déjà l'État interventionniste avec, par exemple, le port du masque intensif. Est-ce que cela influence votre vision aujourd'hui ?
Continuité. Pour moi, l'État s'occupe de beaucoup, beaucoup trop de choses et nous impose, en tout cas pour l'histoire du vaccin, on a tous compris que c'était une fraude mondialisée au niveau de la médecine, de la santé. L'OMS joue un très, très mauvais rôle et malheureusement, on continue sur la même lancée. Hein. On attend avec sans aucune impatience la prochaine pandémie qu'ils vont nous vendre, mais je ne me fais pas d'illusions. On n'est que des marchandises pour l'État. D'ailleurs, le citoyen suisse est bien coté au niveau des grands lobbies internationaux, des grandes entreprises, parce qu'on a un fort pouvoir d'achat, même si quelqu'un des immigrants ou des frontaliers viennent habiter en Suisse, ils deviennent suisses et ils apportent cette ressource financière au grand marché international ou à la globalisation. Et c'est vrai que c'est quand même terrible de se dire, l'État qui pousse à nous vendre à ces différents lobbies, alors qu'il devrait nous protéger de ces différents lobbies.
Ouais, l'État pousse à nous vendre, ça c'est, ouais, on est, en plus de ça, c'est au détriment des indigènes, quoi. C'est-à-dire que c'est les indigènes qui payent, c'est les indigènes qui payent pour l'accueil de tout ce monde, quoi.
Oui, oui. Alors, c'est très intéressant pour les lobbyistes d'avoir une forte immigration. Si on pourrait avoir une Suisse à 20 millions, ils seraient heureux. Parce qu'il y a cette valeur financière du citoyen suisse par rapport à un citoyen malien ou un citoyen du Swaziland. Donc, tout ça, il faut pouvoir en avoir conscience. Après, une fois de plus, moi, le problème, c'est que même si on en a conscience et puis que les consciences se réveillent quand même avec l'accès aux informations qu'on n'avait pas à l'époque et puis les débats qui sont possibles, mais les moyens de lutte, l'État nous les enlève, il fait partie du système, donc il nous prend de l'argent pour après, typiquement il prend de l'argent aux impôts pour donner des subventions aux paysans pour leur dire vous avez le droit, vous ne devez plus produire, vous devez laisser ça en friche, alors que c'est d'une absurdité économique. Il faut continuer à produire intelligemment, avec bien sûr en faisant attention quand même à ne pas détruire la nature dans laquelle on est, mais le fait de ne rien faire n'est pas meilleur puisqu'on détruit ailleurs.
Ouais, c'est assez incroyable. Effectivement, hein, autour de moi, j'ai des paysans qui me disent mais il faut qu'on arrête de nous subventionner. On peut très bien travailler avec ce qu'on a. Il faut qu'on nous laisse bosser. C'est incroyable. Et c'est ce qu'il y a de fou là-dedans, et c'est qu'ils ne sont pas entendus, ou alors on les fait taire en augmentant les subsides.
Tout à fait. Alors non, justement, à la dernière Assemblée Générale d'Helvetica, on avait un paysan qui nous a expliqué qu'il était obligé de faire de la merde, entre guillemets, parce que l'État le cadrait pour qu'il ne puisse pas faire autre chose. Alors que si justement on laissait l'argent dans les poches des paysans, ils aiment leurs terres. Les paysans, c'est des gens qui aiment leurs animaux, c'est des passionnés. Et malheureusement, ils se retrouvent massacrés ou oppressés par ce système qui n'a rien à voir avec de l'humanité, qui a à voir avec uniquement de l'argent, des flux, des transferts de marchandises. Et puis, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de diminuer les moyens de l'État. En même temps, avec la courbe de l'affaire, moins l'État prend, plus au final il a de l'argent quand même. Ouais. Mais au moins, il n'a pas des missions, il se chargera pas de missions inutiles et absurdes pour diminuer les capacités de liberté des citoyens.
On a l'impression que c'est un peu un hold-up, alors bien sûr pas à la Banque cantonale du Jura, mais c'est une espèce de hold-up, une espèce de pillage sournois. Alors Pascal, explique-moi et aussi à nos auditeurs, inflation, dette, impôts cachés, est-ce que tu as des exemples de comment l'État dépouille le Jurassien sans qu'il s'en rende compte ?
Oh ben c'est très simple, le Parlement jurassien a décidé en 2020, par exemple, de ne plus indexer la valeur des maisons lors d'une transaction immobilière. C'est-à-dire que donc vous avez vos parents qui ont acheté leur maison 30 000 francs en 1960, et puis maintenant, en 2025, elle vaut 1 million, mais on va vous compter que 30 000 francs quand vous la vendrez, pour déduire, pour calculer le gain immobilier.
Incroyable. Incroyable.
Donc, c'est un propriétaire qui est d'accord avec cette logique. Et pourtant, les députés du Parlement jurassien ont décidé de supprimer cette indexation. Donc, c'est vraiment la preuve que les députés ne sont pas des représentants du peuple, ou ne représentent pas le peuple comme ils devraient, parce qu'ils devraient défendre le peuple. Là, ils défendent l'État. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choqué dans mon parcours de parlementaire. C'est cette propension qu'ont les gens, une fois qu'ils sont élus, à changer leur logiciel de réflexion et de penser pour l'État et ne plus penser à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des représentants du peuple.
Ouais, ouais,
et ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque. J'avais un autre exemple aussi. À l'époque où j'étais député, on a dû réviser la loi sur les monuments, et c'était marrant parce que le ministre était dans le même parti que moi, et puis il m'avait expliqué, voilà, je suis content, on va faire une opération blanche. Et puis moi, je lui pose la question, mais c'est quoi une opération blanche? Ben, on va encaisser la même chose, mais différemment. Je dis, mais je suis pas d'accord. Ça fait 5-6 ans qu'on a investi dans de l'informatique. Aujourd'hui, ça prend beaucoup moins de temps. Et j'ai eu à l'époque mon beau-père qui est décédé. Et ma belle-mère a dû faire changer le prénom sur les cartes grises des véhicules.
Ouais, ce que tu expliquais avant.
Ils en avaient quelques-uns, ouais. Ils en avaient quelques-uns. Et ça lui a fait 268 francs, je me souviens du chiffre à l'époque. Et puis, elle avait 10 jours pour le faire. Et il a demandé au gars qui était à l'office, mais vous n'avez pas honte de demander à une veuve comme ça 268 francs pour 15 secondes de travail? Et puis il m'a dit, écoute, c'est pas moi qui fais les lois.
Ouais.
Et je me souviendrai toujours que je suis rentré à la maison, elle m'a bien engueulé, elle m'a dit, dis Pascal, c'est pas toi qui fais les lois, là, les députés.
Bah oui.
Et le hasard a voulu qu'on s'occupait de cette révision des émoluments. Et j'ai fait 6 petites propositions, dont une était que lors d'un décès au sein d'un couple, qu'on offrait la gratuité pour le remplacement des permis.
Ouais.
Donc, je ne sais pas, c'est qui prend, mais le geste humain vis-à-vis d'une personne qui a perdu son conjoint me semblait quand même être évident. Et puis, c'est quand même quelque chose qu'on attend de l'État, un petit peu de compassion, un petit peu d'humanité. Eh bien, à la première lecture, il n'y avait que 6 députés avec moi qui étaient d'accord de soutenir cette idée-là. Et à la deuxième lecture, je m'en souviendrai toujours, j'étais seul avec un autre collègue de parti, et cet autre collègue de parti m'avait dit, après le vote, il m'a dit, écoute Pascal, si j'ai voté avec toi, c'était pas par humanité ou par rapport à l'idée, c'était juste pour que t'aies pas les ridicules. Et moi, je me suis dit, mais bon Dieu, mais la question était tellement basiquement humaine, c'était avoir du cœur vis-à-vis des citoyens jurassiens qui étaient dans des douleurs, dans le malheur. Et puis là, on m'explique, non, mais on va garder le pognon, quoi.
C'est incroyable.
Ça m'a paru tellement pathétique. Ça m'a vraiment fait mal de voir à quel point.
Il y a une déconnexion totale.
Il
y a une déconnexion totale sur. Il y a une déconnexion.
Et c'est, je lutte contre cette déconnexion. Moi, justement, en tant qu'agent dans les trains, je vois au quotidien toutes les couches de la société, et je vois quand même que les politiciens ne se rendent pas compte de ce qui se passe sur le terrain, quoi.
Tu as des exemples de ça? Tu as des exemples de ça?
Ben, ton cas de profession. Typiquement, au niveau de la sécurité, moi, on a eu discuté là, dernièrement avec. Avec des candidats au gouvernement, et j'ai dit, mais moi, l'exemple que j'ai, quand ils parlent de stratégie politique, de socialisme, de PDC, un PLR ou un PCSI, j'ai dit, mais la population, c'est vraiment secondaire, ils en ont rien à cirer de ça. Eux, c'est ce qu'ils veulent, comment arriver à ne pas devoir attendre le 25 avec impatience pour récupérer, pour pouvoir payer les factures qui restent, et puis de pouvoir prendre le train sans être mis en danger. J'ai eu dernièrement, justement, une jeune demoiselle qui était recroquevillée sur elle-même contre son téléphone portable, et puis il y avait 4 migrants qui étaient autour, qui la harcelaient. Je suis arrivé, j'ai dit, écoute, il y a de la place en première classe, discrètement, elle est partie. J'ai réglé le cas des voyageurs qui n'avaient pas de titre de transport, évidemment. Et puis, j'ai mis le plus de temps possible pour leur éviter de leur donner l'occasion d'aller de nouveau vers la demoiselle. Et après, quand je suis retourné vers la demoiselle, une fois que les cas étaient réglés, elle m'a remercié parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle était vraiment mal à l'aise. Et moi, ça me fait quand même peur de voir ce déni qu'on a vu en Angleterre avec les grooming gangs, quand on voit qu'on emprisonne la personne qui ose
Donc
expliquer ce qui se passe.
la réaction des élus quand tu as donc de tes collègues hein, quand tu as donné cet exemple, quelle a été leur réaction?
Oh, tout de suite, écoute, Pascal, c'est pas intéressant. Normalement, ici, on est là pour avoir des discussions légères. Et puis là, c'est trop sérieux. Puis on n'est pas d'accord avec tes idées. Alors, moi, je veux bien qu'ils soient pas là. Pour moi, c'est un déni. Et ce déni est grave parce que, évidemment, il y a des conséquences au quotidien.
Ouais, c'est
Et moi,
incroyable.
je crains pour mes enfants, pour l'avenir du Jura, où on est en train de donner toutes nos ressources, on les accueille. Alors, ça fait du bien, éthiquement parlant, c'est très agréable de se dire, voilà, on a accueilli des gens qui étaient plus mal que nous, mais à un moment donné, on n'est plus dans les années 60 et 70, c'est ce que je disais aussi dernièrement. Dans les années 60-70, il y avait des réfugiés politiques, il y avait les communistes et les autres, puis on savait, on connaissait les militants, puis on savait qu'ils étaient menacés chez eux, on savait pourquoi. Moi, je vous mets au défi d'aller demander à n'importe quel réfugié qui est par là, qui est leur gouvernement, contre qui ils sont dans leur gouvernement, pourquoi est-ce qu'ils militent, et puis dans quel parti ils étaient, ou simplement leur demander la situation de leur pays. Ils diront
Ouais.
c'est en guerre, et puis c'est tout. Mais tous les
Oh,
pays
c'est en
peuvent plus
guerre, c'est
être.
en guerre.
Voilà,
C'est
voilà.
vite dit, en guerre, c'est vite dit, parce que beaucoup de pays, moi, j'ai
Ouais,
des
bon, moi ça
informations qui
me.
arrivent, par exemple, de l'Afrique. Quand je vois ce qui est en train d'être réalisé depuis 2 ans maintenant en Afrique, un peu plus de 2 ans, c'est assez impressionnant quand même. Alors, les conflits ont été, beaucoup de conflits ont été arrêtés maintenant depuis 2 ans. Mais comment ça se fait que le flux de migrants ne tarit pas, lui, par contre?
Alors justement, c'est parce qu'on est tellement généreux, on a une générosité maladive. Pour moi, on est arrivé, c'est pathologique à ce niveau-là. On donne systématiquement. Les autres ne donnent pas, hein. Je prends régulièrement l'exemple de l'Arabie Saoudite. Si vous êtes réfugié en Arabie Saoudite, vous avez une année pour trouver du travail, sinon c'est dehors. Chez nous, il y a malheureusement des personnes qui sont venues il y a 10 ans, ils n'ont toujours pas travaillé. Mais on leur a financé un appartement, on leur a financé les écoles, on leur a financé des formations, on leur a financé l'apprentissage de la langue, etc.
Et
Et
puis les
nous,
soins
quand
médicaux
un
aussi.
citoyen jurassien.
Les soins médicaux aussi, hein.
Pardon?
Les soins
Et nous.
médicaux qu'on leur finance.
Oui, alors les soins médicaux, alors là, alors ils n'ont pas de problème à être dans les 47% de ceux qui ont besoin de subsides et qui ne payent rien. J'entends la communication aujourd'hui, elle est dans tous les sens. Et il est évident qu'on explique comment bien faire pour avoir un maximum d'aide au niveau des autorités ici en Suisse et en Europe. Hein. Moi, je comprends qu'on avait cette volonté de se dédouaner, de montrer qu'on n'était plus les colonisateurs des années 60, mais ça date, c'est fini. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Et il faut absolument qu'on retrouve. Moi, j'aimerais quand même que mes enfants ne doivent pas payer des dettes. C'est ce vol invisible aussi. Chaque année, on paye des banques pour rien du tout, parce qu'on a emprunté à une certaine période et les banques ne prêtent plus du tout à nos enfants. Moi, j'ai dans ma famille, je voulais que mes enfants rachètent les maisons, mais ils demandent des fonds propres à un taux d'endettement avec un pourcent de taux d'intérêt à 5% qui date de 2008. On est en 2025. Par contre, ils vont vous demander vos 3 dernières payes pour être sûr que vous avez une situation financière qui est
Ouais.
stable et puis qui est bonne, etc. Et même quand on l'a, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont nous prêter quoi que ce soit. J'en arrive presque à dire que dans le milieu bancaire, aujourd'hui, on peut remplacer tous les agents par des intelligences artificielles parce qu'ils ne font qu'appliquer des règles il y a 3, 4, 5 points qu'il faut établir. Une fois qu'ils sont établis, c'est A plus B égale C, on vous donne rien et voilà. Alors qu'il n'y a pas du tout la logique, bon, vous êtes au Jura, vous avez un bon emploi, de toute façon, la situation est stable, vous avez et puis vous allez pouvoir rembourser votre dette. C'est pas un problème.
C'est un
Mais par
sujet.
contre, l'État s'endette en notre nom et nous impose pour des générations et des générations des dettes et puis qu'on devra payer avec des intérêts et les intérêts que ce qu'on aura demandé pour investir.
Ouais. C'est un sujet qui revient très souvent, hein, ce problème de prêt bancaire, où quelque part, on a l'impression que derrière, il y a déjà tout un, on va dire, tout un schéma, tout un protocole qui est établi par des investisseurs, où de toute façon, on n'est plus dans le local ou dans le régional, on est dans le mondial, et si ça ne correspond pas à ces règles mondiales qui sont définies par les investisseurs comme BlackRock, Vanguard et compagnie, mm-hmm. eh bien, vous n'avez droit à rien, même pour refaire votre cabanon de jardin.
Tout à fait. Alors moi, je vois, j'avais essayé de vendre une maison à Courandelin où il y a la ligne de chemin de fer juste à côté, mm-hmm. et c'est vite vu. Selon les normes suisses, ligne de chemin de fer égale moitié de valeur du prix du terrain. Alors qu'il y a 4 trains qui circulent par heure, donc ça fait 18 secondes de présence d'un train.
Ouais. Oh bien, en plus, si c'est régulier, les êtres humains s'habituent.
La gare de Genève, vous avez 18 aiguillages qui bougent en permanence. Je veux bien que ça puisse être une nuisance, qui puisse diminuer la valeur de votre terrain. Mais quand vous êtes à côté d'une ligne droite où il y a 4 trains qui circulent par heure, je suis désolé. Mais par contre, la banque a pris en compte ce fait-là, point terminé. Il n'y a pas ouais. du tout de cette adaptation.
Pascal,
on fait des règles toujours plus compliquées. Aujourd'hui, en France, par exemple, j'ai appris qu'on doit d'abord avancer l'argent que l'on pourrait gagner en gain immobilier pour pouvoir vendre la maison. C'est ouais. complètement absurde parce qu'on n'a pas cet argent avant de l'avoir vendu. Et puis une fois qu'on l'a vendu, qu'on puisse le financer, oui, mais on ne peut pas financer avant d'avoir l'argent. C'est vraiment tout fait pour qu'on ne puisse plus devenir propriétaire, qu'on ne puisse plus avoir... Alors que, bon, pour moi, j'ai toujours vécu dans une maison, et pour moi, c'est la base de la vie. J'entends, c'est normal. C'est normal d'avoir envie d'avoir son chez soi. Ça fait partie des produits de base, je dirais, pour une vie heureuse, comme la nourriture, comme avoir une belle famille, comme avoir un bon travail. Tout ça, ça fait partie de la base. Et on fait tout pour qu'on ne puisse plus, les prochaines générations ne pourront pas devenir propriétaires, à moins d'avoir justement l'ancienne génération qui a été suffisamment prudente pour espérer, pour comprendre, pour donner le patrimoine.
Est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté de la part donc, de ceux qui tirent les ficelles de justement bloquer, comme tu l'as dit clairement, l'accès à la propriété et par derrière, dans la finalité, de s'approprier ces biens ? Qui perdent de la valeur, qui perdent de la valeur, et puis de les racheter à un moment donné aux héritiers, hein, s'ils ont encore la possibilité de l'avoir, hein, d'en avoir hérité, eh bien de racheter pour une bouchée de pain, une miette de pain, tous les maisons, les terrains, etc.
Ah, c'est exactement ce qui se passe, hein, parce que après, vous avez plusieurs effets. Il n'y aura qu'un seul qui pourra vraiment profiter de la maison. Et puis au final, ma foi, on doit vendre. Et puis avec les impôts qui viennent par-dessus, c'est juste énorme. Au final, si aucun des enfants reprend, là, vous avez 35% d'imposition. Si c'est un enfant en ligne directe, il n'y a que du 7%. Mais même, de toute façon, ces impôts de succession, pour moi, je suis totalement contre. J'aimerais les supprimer.
Mais
il n'y a pas de raison.
Pascal, les partis traditionnels disent que baisser les impôts, c'est creuser les déficits.
Oui, alors c'est un gros mensonge par rapport à la loi naturelle, je dirais, de l'économie. Par contre, eux, c'est tout à fait dans leur intérêt pour maintenir le système, pour garder leur pouvoir sur la population.
Ouais. Donc on revient à cette histoire de contrôle de la populace.
Total, oui. Ouais.
Et c'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors Pascal, les mesures choc pour sauver le canton. Listons-en quelques-unes, hein, et puis parlons de comment les partis traditionnels PS, PLR, Centre, hein, qui selon certains minent la démocratie, la transformant en cartel. On en a donné quelques exemples. Même promesse, même échec, on le disait au début de l'émission, à répétition, donc les échecs à répétition, et un État qui grandit au lieu de servir. Quelles seraient dans ton programme, justement, les mesures, si tu peux nous en dire quelques-unes, pour changer tout ça ?
Alors justement, on a l'exemple, il y a une possibilité de construire un nouvel hôpital à Delémont qui serait construit que par des privés. Donc l'État espère effectivement ne pas devoir payer. Donc ça, courage, c'est ce qu'on a la population, on n'a pas sans m'en dire. Pour moi, justement, une des mesures, ça serait de dire, OK, on a une situation financière et puis une situation sanitaire qui fait qu'on a un hôpital à Delémont-Porrentruy et Moutier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde qu'on continue pour le moment cette façon de faire, ou est-ce qu'on fait un nouvel hôpital? Est-ce que si on fait un nouvel hôpital, est-ce qu'on le fait à Delémont avec ce fonds privé, mais qui, bien sûr, ne fait que ce ne sera pas l'État qui pourra vraiment gérer cette histoire? La santé est quand même quelque chose que je trouve qu'il devrait y avoir un garde-fou de l'État, en tout cas. Et, ou alors, est-ce qu'on le met à Glovelier pour que ça arrange tous les habitants du Jura, que ce soit des Franches-Montagnes, du
Ouais,
district
centraliser
Porrentruy, du Jura,
le
voilà,
lieu, quoi.
décentralisé.
Ouais.
Et justement, moi, personnellement, en tant que ministre, je ferai un référendum consultatif avec la possibilité d'avoir le choix, que les Jurassiens nous disent, OK, on est pour un nouvel hôpital, mais on le veut à Glovelier.
Ouais.
Ou alors on est pour un hôpital où on n'aura pas de financement à faire, on le met à Delémont. Ou alors, non, 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 on veut pouvoir garder cet hôpital de proximité, cette tradition qu'on a en Suisse, qui pour moi est merveilleuse quand même. On a quand même quelque chose de proche avec des gens qu'on connaît, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour aller, ce n'est pas un désert médical. Hein, donc on a cette chance d'avoir des endroits où on peut se faire soigner. Et puis on garde cette solution-là, d'accord, il y aura une conséquence au niveau financier, et puis qu'on puisse choisir. Et puis une fois que le choix est fait, le gouvernement applique le choix du peuple et pas le choix de l'État.
Ouais, parce que c'est ce qu'il devrait représenter normalement. Le gouvernement devrait représenter la population et la servir, hein. C'est
À
assez
fait.
incroyable. Est-ce que il y a d'autres, je dirais, mesures que tu envisages si tu es élu?
Alors personnellement, ça serait de supprimer toutes les subventions qui ne sont pas obligatoires légalement, parce que malheureusement, les lois sont quand même à double tronçon, et que tout cet argent qui n'est pas versé soit diminué aux impôts. Donc qu'on
D'accord.
arrête de faire des fonds pour le développement du solaire, des fonds pour le bio, des fonds pour la sauvegarde des chevaux, je ne sais pas tout qu'est-ce qu'il y a comme fonds. Simplement, on laisse l'argent dans les poches des Jurassiens, mais on ne leur donne plus rien. C'est à eux de gérer, puis à eux de faire développer. La société civile, pour moi, a beaucoup plus de légitimité et beaucoup plus de facilité et de flexibilité à agir qu'un État qui agit souvent de manière idéologique, de manière procédurale, de manière. On le voit bien avec l'exemple des énergies renouvelables, où maintenant on a depuis cette année une taxe sur les énergies renouvelables, où on donne de l'argent à l'État qui va le redonner en fonction de ses intérêts. Donc est-ce que oui ou non on te donne, tu veux des panneaux solaires, mais non, mais nous ça va pas parce que dans l'envie, on ne veut pas t'en donner du tout. Et puis en plus, si vous donnez subsides, le pire, c'est qu'ils nous encaissent encore des impôts sur ces subsides qu'ils nous ont donnés. Hein.
Oui, donc
Donc,
c'est un peu, ouais.
on paye des impôts sur l'argent qu'on leur a donné pour nous redonner.
Et puis
Donc c'est vraiment un cercle complètement absurde, quoi.
en plus de ça, l'argent finit souvent dans les poches privées. Et ça, c'est pas très juste, c'est pas très normal. Alors, je dis pas que
C'est vrai,
l'État
je
doit
peux
se mettre à
aussi.
fabriquer des panneaux solaires, hein. L'État n'a pas à fabriquer des panneaux solaires. Mais à un moment donné, c'est vrai que certains subsides, normalement, devraient disparaître, certains soutiens. Et en plus de ça, je pense que ça pousserait la population à beaucoup plus développer au niveau local, régional.
Oui, ça donnerait aussi des places de travail, parce que les besoins d'aide ici et là sont toujours là. Les besoins de produire des panneaux solaires, ou bien justement de protéger les chevaux, ou de je ne sais pas tout ce qui pourrait être, ou bien réparer les voitures, ou ce genre de trucs, ça pourrait d'avoir des gens qui, au lieu d'être au chômage, eh ben, s'occupent de fonder une petite entreprise, une petite
Ouais.
association, quelque chose pour améliorer la vie ou les situations dans le canton. Et moi, ce que je crains aussi, c'est, on a par exemple beaucoup parlé dernièrement des fusions de communes où l'État veut absolument restructurer pour gagner de l'argent en efficience, etc. Ce qui n'est rarement le cas, parce qu'après, avant, on avait trois communes où vous aviez quasiment du bénévolat pour les maires, et puis après, vous avez un maire qui n'est plus du tout du bénévolat, puis qui a du 100%. Et au niveau financier, ça revient au même. Par contre, j'ai suivi ces ces problématiques de fusion. J'avais demandé à ce qu'il y ait des défusions, que la possibilité de défusionner, parce que quand je vois le village de mon frère à Soultz, où la grande question était est-ce qu'ils vont fermer l'école? On leur a dit non, non, on ne va pas fermer l'école. Une année après, la première chose, les premières décisions qu'ils ont prises, c'était de fermer l'école. Et de fermer une école, c'est la destruction du tissu social d'un village. Pour moi, on peut peut-être gagner 20 000 francs.
Alors, on a des micro-coupures, hein, Pascal.
Parce que le village ne vit plus.
On a des micro-coupures de temps en temps.
Désolé.
Mais c'est pas grave, on fait avec. Moi, tu parles de fusion de communes. Moi, personnellement, je trouve que c'est une destruction voulue, hein, de la démocratie, parce que vous aviez des communes de 500-600 habitants où chacun avait encore, à l'époque, la possibilité de s'exprimer au niveau de la municipalité, du conseil communal, etc., de participer, hein, un peu au débat. Hein. Et puis aujourd'hui, on fait des communes de 4 500-5 000 habitants où tout simplement, quand vous voulez poser une question au conseil communal qui se réunit, eh bien, on vous dit « Ah, mais écoutez, il faudra la poser par écrit. » Et puis, comme à Yverdon, par exemple, ben, y a un tri qui se fait sur les questions qui, selon la municipalité, elles paraissent intéressantes ou pas. C'est assez fou. On est dans une espèce de, avec ces fusions de communes et ce qui en résulte, on est dans une espèce de déni de démocratie. Comment envisagerais-tu, toi, tu parles de défusion de communes, c'est-à-dire de nouveau les séparer, hein. Comment envisagerais-tu de proposer ça si tu étais élu?
Eh ben, typiquement, qu'il y ait une loi qui dise que tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, tous les 5 ans, chaque entité politique précédente peut voter pour elle-même et dire « Ok, on reste dans la nouvelle commune ou pas ?» Parce que les choix, on ne peut pas savoir avant de se marier comment sera le mariage. Quand les enfants naissent, après, ben, y a des changements. On déménage, on a un nouveau travail, tout change. Donc, il faut qu'ils puissent rechanger. Et où je voulais en venir par rapport au Québec, c'est que les défusions au Québec ont très souvent lieu à cause de scandales financiers, parce qu'il y a justement du favoritisme et du corporatisme. Et puis, si vous avez une petite commune qui demande à faire, je ne sais pas moi, 3 km de canalisation, ben vous aurez quelqu'un local ou une entreprise qui sera pas loin. Il y aura des gens du village peut-être même qui pourront en profiter. Par contre, une fois que vous avez une commune de 40 000 habitants, c'est fini. Là, vous avez des grands consortiums qui viennent et puis les petites entreprises locales, vous les oubliez. Hein.
Ouais, on le constate partout. Alors, puis je pense que les communes, même les petites communes, peuvent se mettre ensemble pour différents projets sans nécessairement que ça nuise à quoi que ce soit.
Oui, alors moi j'aimerais par exemple qu'on puisse avoir des communautés de communes en maintenant l'indépendance politique de chaque commune. C'est-à-dire avoir par exemple pour 3 petites communes, je peux prendre le Haut-Plateau, Edwardsvillers, Mauvelier, Plaigne, qui se mettent ensemble, il n'y a qu'un seul représentant pour les 3 communes, mais que chaque commune puisse décider si oui ou non elle continue ou bien si oui ou non elle participe à un projet ou pas. Et là, avec cette possibilité de dire non, de pouvoir dire attendez, vous nous demandez, vous faites jamais rien de notre côté, alors on n'a pas envie de participer par là, et pouvoir vraiment coller à la volonté des villageois et puis de s'occuper chacun de ses problèmes. Donc garder simplement, peut-être diminuer le nombre d'administrateurs ou de représentants, avoir un seul qui pourrait être une sorte de maire pour les 3 communes, tout en n'étant pas forcément, pas en ayant le nom maire, mais qui n'ait pas besoin de maire, mais qui est un décideur pour les 3 communes. Et puis lui s'arrange après de proposer les projets aux différentes communes et puis que chaque commune puisse dire oui ou non, elle participe.
Oui, tout à fait.
Donc maintenir cette indépendance politique, cette indépendance de choix, cette liberté de participer ou pas, et puis ça permettrait d'avancer beaucoup plus sereinement parce qu'on a le droit de dire on n'est pas d'accord.
Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont imposées aux populations, hein, et tout ça, c'est avec des prétextes bien souvent bidons.
C'est assez fou.
Deux questions rapides, Pascal. Une sur l'environnement. Et les Verts, Pascal, les Verts. Et qu'en est-il de l'unité jurassienne?
Alors, pour les Verts, l'écologie, moi, ce qui m'inquiète, c'est les lobbies veulent absolument nous culpabiliser sur le changement climatique, alors que le climat change tout le temps, depuis le début de la Terre et jusqu'à la fin de la Terre, va toujours changer. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on nie ou on minimise ce qui est en fait les principaux responsables de ce changement climatique, de ces changements, c'est les variations astronomiques. On est quand même dans un système solaire qui a sa propre dynamique et qui est 1 000 fois, 1 million de fois plus importante que les activités terrestres. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas pour protéger la biodiversité puis empêcher les destructions de biotopes, mais il faut arrêter de nous raconter, de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Et puis pour
Et
l'unité jurassienne, oui?
oui, justement, j'allais y venir, l'unité jurassienne, qu'en est-il?
Alors pour moi, ça reste mon idéal. Je rêve de voir la capitale du Jura un jour, mais je ne le vivrai certainement pas. Et en même temps, je me dis, si j'arrive à faire cette évolution des mentalités vis-à-vis de la fiscalité, ensuite les gens du Jura Sud auront une véritable raison qu'ils pourront avouer plus facilement que de dire, ouais, on va avoir le même projet commun, mais avec une fiscalité qui serait nettement meilleure. Les gens du Sud se rappelleraient probablement qu'ils sont jurassiens à la base, enfin en tout cas historiquement. Et j'espère quand même qu'on arrivera à retrouver le peuple jurassien au sein d'un seul territoire et d'un seul État.
Merci Pascal pour ces réponses. Et puis il me vient une autre question à l'esprit là. L'EID, oui, non, et pourquoi Pascal? Vu que cette votation là est pour dimanche prochain, le 28.
Alors, je suis totalement contre. C'est le début du contrôle social à la chinoise. Je me souviens d'avoir vu une vidéo sur Utopia 56 où on avait ce contrôle social, où on en arrivait à ce que l'État nous disait qu'on n'avait plus le droit de boire de l'alcool, plus le droit de fumer, que le seul endroit où ils nous foutaient la paix, où il n'y avait pas de caméra, hein, c'était 1984, mais version moderne, c'était les toilettes. Et puis après, ils avaient été obligés de limiter la grandeur des toilettes parce que c'était devenu la plus grande pièce des maisons. Et le film, alors attention spoiler, se termine sur la femme qui finit en prison parce qu'elle a fait toutes les choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Et en fait, en prison, on la voit en train de fumer, puis de boire un verre de rouge, et puis être souriante. Et puis la prisonnière d'à côté qui dit: Mais comment tu fais pour sourire alors que tu es en prison? Puis elle a dit: Eh bien non, je suis libre enfin. Et c'est ça qui me fait peur, c'est qu'avec cette identité numérique, on arrivera à un contrôle total de l'État. Et je n'ai plus confiance en l'État. L'État est devenu beaucoup trop invasif. Il choisit pour nous qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et on sait très bien qu'ils en ont absolument rien à cirer de nous. Et en fait, ils ont des lobbies derrière qui leur dictent le bien-être de la population.
Et puis, une question qui est quand même importante, hein, puisqu'on est là pour ça. Pourquoi voter Pascal Prince le 19 octobre? Un mot pour les indécis.
Alors je dirais, c'est pour donner un espoir, parce que de ce que je vois comme évolution, ça fait quand même, depuis que le canton est né en 1979, qu'on a une dégradation des conditions de vie. Alors ce n'est pas forcément flagrant pour tout le monde. Si on a un emploi bien rémunéré dans les entreprises horlogères, on se dit tout va bien, mais il y a tout ce qui est autour, et on se rend quand même compte que je suis allé dernièrement à Coin-Hadelin et on a inauguré un tout nouveau magasin qui s'appelle Action, sans vouloir faire de la publicité, mais c'est tout extrêmement bon marché parce que les gens n'ont tout simplement pas les moyens de s'acheter plus cher. Et cette évolution vers toujours plus de magasins moins chers, où il y a toujours moins de qualité aussi, hein. Il faut bien se rendre compte qu'on a les produits pour le coût qu'on paye, hein. Rien n'est gratuit, la qualité n'est pas gratuite. Et il n'y a plus vraiment de cette possibilité, quand je vois toutes les difficultés qu'on a pour acheter une maison, pour devenir propriétaire ou bien pour réparer ses voitures maintenant avec l'électronique. Je constate quand même que il y a 35 nouvelles questions, dont par exemple pour passer le permis, avec les aides à la conduite, où il y a vraiment un contrôle des voitures et de l'électronique qui va très loin. J'entends, il y a des écouteurs, il y a des enregistreurs de conduite. Vous avez maintenant l'obligation d'avoir des systèmes qui vous ralentissent si vous dépassez la limitation de vitesse. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup trop de contrôle. Aujourd'hui, une deux chevaux, on n'aurait plus le droit de la conduire, quoi. On n'aurait plus le droit de la fabriquer, alors que franchement, c'est une contrainte, c'est une restriction de notre intelligence, parce qu'à force de nous diminuer nos libertés, on perd en intelligence, on perd en imagination, on perd en comment dirais-je,
En
en
créativité,
développement, en créativité, voilà, c'est le mot que je cherchais, bien joué.
Mais c'est complètement fou, hein. Et alors, en plus de ça, ça limite, ça commence déjà, hein, à limiter grandement le déplacement des gens. C'est-à-dire que on commence par leur interdire la voiture, et puis après on va diminuer parce que soi-disant c'est inutile. On le voit déjà dans certains cantons en Suisse allemande, hein, où on a aboli des lignes de transport public. Le car postal a éliminé des lignes de transport, et c'est dans certaines petites communes d'altitude où c'est on va dire les privés qui ont mis en place un système de transport. Donc on commence par le permis de conduire. Il reste beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font plus le permis pratiquement. Et puis ceux qui le font, ben voilà, ils sont fliqués, contrôlés de A à Z. On oblige les constructeurs à mettre des boîtes noires. Ouais, c'est juste ce que tu dis, Pascal. Alors Pascal, on arrive gentiment au bout de cette heure ensemble, de cette petite heure ensemble. Pour nos auditeurs, hein, qui ont envie d'avoir plus de détails et tout sur ton programme, ce que tu proposes, etc. Bien, rendez-vous sur le site internet pascalprince.ch pour ton programme complet. Merci Pascal Prince pour cette heure franche et directe, hein. Chers auditeurs, réfléchissez bien au rôle de l'État, allié ou pickpocket. La question est posée, hein, on doit toujours s'interroger. Jurassiens, jurassiennes, allez voter, si possible en personne, ça évitera les magouilles, pour ces élections qui décideront de l'avenir de votre canton, c'est-à-dire de vous-même, mais surtout, surtout de vos enfants. Voilà. Un dernier mot, Pascal?
Oui, alors, vive la liberté, c'est toujours ce qui m'anime le plus. Le peuple battre pour sa liberté. Il n'y avait rien de financier derrière, c'était juste par idéal. Et j'espère que les Jurassiens retrouveront cet idéal pour voter des gens qui leur proposeront pas seulement des arguments techniques ou financiers, même si, évidemment, mon programme de base, c'est de diminuer les impôts, mais c'est pour retrouver cette liberté d'action, cette liberté d'agir, cette liberté de vivre selon ses choix. Et puis, c'est vraiment pour moi le moteur de mon engagement. Et j'espère le partager avec un maximum de Jurassiens.
Ouais, le côté humain. Le côté humain.
Exact.
En tout cas, c'est ce
on,
que.
On est né pour vivre libre. Et là, je veux bien qu'il y ait un contrat social, puis que c'est bien d'avoir des routes, et puis de savoir quand on va rouler à droite, parce que c'est quand même plus facile que si tout le monde faisait n'importe quoi. Mais il y a liberté et liberté. Il y a la liberté de choix et l'organisation nécessaire pour arriver à progresser dans le monde dans lequel on est.
Ouais. Encore merci, Pascal, et puis bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Électron Libre. Merci, bye bye.